Bonjour à tous, heureux d'être avec vous, merci à Stéphane de nous avoir invités à venir et de nous avoir accueillis, et puis à la famille, que le Seigneur bénisse les uns et les autres et que aujourd'hui encore nous soyons sous l'onction de l'Esprit, parce que prêcher c'est une chose, mais l'onction est autre chose. Soit arrosé. On sème, mais il y a besoin que la semence soit arrosée et qu'elle soit arrosée de l'onction de l'Esprit pour qu'elle puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Salutations de l'église d'Évreux. Évreux se situe à une heure en voiture de Paris, donc ça vous situe un peu. On est au nord. Mais nous sommes heureux d'être avec vous. Vous avez les salutations de l'Église. On nous a chargé de vous apporter les salutations de toute l'Église. Voilà. Donc je vous les apporte. Alors je vais vous... La première lecture, on va la faire dans l'Ancien Testament. Comme me disait un jour un frère, vous êtes un pasteur de l'Ancien Testament. Oui, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien se comprend avec le Nouveau. Et le Nouveau se comprend avec... Donc j'ai besoin des deux, moi, pour comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez tout, mais on a besoin du Seigneur pour nous aider. Donc on va faire une première lecture dans le livre des Nombres. Livre des Nombres, chapitre 21, et à partir du verset 4. Nombre 21, verset 4, ils partirent de la montagne de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et puis on va faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Vous connaissez ce passage pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu. Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Le Seigneur Jésus rencontre un... Et il est docteur de la loi. Et il va lui dire au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On croit en lui et la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Quelle grâce pour que le monde soit sauvé par lui. Donc le Seigneur nous invite, il nous dit, voilà, il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous aimez la bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Rappel d'une réalité spirituelle. La nouvelle naissance est l'élément important accompli en nous. C'est Dieu qui crée en nous une nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus dira, il faut que tu naisses de nouveau. Donc je ne sais pas si quelqu'un naît de nouveau. Mais c'est la parole de Dieu et le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, chers amis, I et IE, il faut naître. C'est indispensable, c'est la première des choses, la nouvelle naissance. Et le Seigneur dira, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et l'autre événement important qui doit avoir lieu est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix accomplie pour nous. Il faut... Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est quelque... Il n'y a pas de salut sans la nouvelle naissance. Il n'y a pas de salut sans que Jésus soit élevé comme le serpent a été élevé dans le désert. C'est indispensable, il faut. Et c'est Dieu qui le dit. L'homme sur la terre est séparé de Dieu par son péché. Et pourquoi le serpent ? Bien, le Seigneur nous rappelle que le serpent est appelé Satan, est appelé le diable. Et je voudrais vous dire que le diable n'est pas un ami, c'est l'ennemi, c'est notre ennemi, c'est un adversaire, et il fait la guerre aux saints. Et il emploie tous les moyens pour nous éloigner du Seigneur. Il emploie les moyens de la persécution. Je pense que vous savez qu'il y a des persécutions dans le monde. Il emploie les moyens du mensonge du Seigneur. Et il est celui qui vient nous aveugler, aveugler nos cœurs, pour que nous ne croyions pas à Jésus, le Fils de Dieu. Donc c'est un ennemi, l'ennemi de nos âmes, tant lui-même se déguise en ange de lumière. Et dans 2 Corinthiens, il nous est dit également, 2 Corinthiens 11, 15, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leur sort. » Il nous rappelle l'Écriture, et comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera, on ne va pas parler que de lui, hein, mais je vous fais un peu le décor. Il est comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera, et puis l'Écriture nous rappelle dans Apocalypse une grande colère contre l'Église, contre les élus, contre les hommes, pour nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre son, car il est le menteur et le père du mensonge. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Le diable est menteur, il est le père du mensonge. Et nous marchons selon la vérité. Ces anges sur la terre, et le Seigneur nous montre que dans l'Apocalypse 12, il sera précipité le dragon ancien, celui qu'on appelle le serpent. C'est pour ça que je prends ce passage. Appelé aussi le diable, Satan, celui qui séduit la terre, et il est éternel. Le serpent est l'image de celui qui règne et qui agit également dans le cœur de l'homme. Et quiconque se livre au péché, nous rappelle le Seigneur, est esclave du péché. Et le Seigneur Jésus dira aux religieux de l'époque, que quelquefois on dit, moi je crois en Dieu, je prie le Seigneur, on a tous le même Dieu. Les Juifs à l'époque du Seigneur Jésus priaient le Seigneur. Et Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus dira aux religieux de son temps, dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Qui avons-nous pour père ? Alors le Seigneur nous dit à contrario, je parle italien, quiconque est né de Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc quiconque est né de Dieu, ne peut pas pécher parce que nous sommes nés de Dieu. Donc il faut que tu naisses de nouveau. Ça, c'est donc que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc le Seigneur nous montre ici tout ce que représente ce serpent qui est mis sur une perche. Et de même que le serpent est élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alors on se dit, mais Seigneur, quel rapport y a-t-il entre toi et le serpent? Ça ne vous tourmente pas un peu? Moi, quelquefois, ça me creuse la tête. Alors, la seule solution, je vais vous donner ma méthode, c'est quand je ne sais pas, je demande au Seigneur. Alors, le Seigneur nous explique les choses. Contre le peuple, des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Frères et sœurs, pécher contre le Seigneur n'est pas sans conséquence. Le peuple de Dieu a péché, ce n'est jamais sans. Dans Jérémie 2, 19, il dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira et tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte, il est né des armées. pécher contre Dieu a des conséquences. Celui qui pêche devient la proie de l'ennemi de son âme. À ses dépens, il apprend à connaître toute la puissance terrible de l'ennemi de son âme, c'est-à-dire Satan. La sœur ne rend pas heureux. Ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui le suivent depuis des années peuvent refaire une rétrospective un peu de leur vie passée en disant « C'est vrai, hier je faisais telle chose et autre, et je ne suis venu au Seigneur Jésus, les choses ont changé. » Le Seigneur rend heureux. Le péché ne rend pas heureux. Dans Proverbes 13, 21, il dit « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, dira l'Épître aux Romains. Donc il n'y a point de paix pour le méchant, dit le Seigneur. Il n'y a point de joie pour les impies. Et tout se monte. Et le Seigneur va donner cette parabole du fils prodigue. Il était dans la maison du Seigneur. À un moment donné, il va lâcher la main du Seigneur. Et il ne vit pas heureux. Il se trouve dans le besoin. Il est malheureux. Il est dépourvu de tout. Et puis à un moment donné, il va réfléchir. Il va dire, mais il y a combien de chrétiens martyrs qui sont heureux? Et moi, je suis là dans ma misère. Et il dit, bien, voilà ce que je vais faire, je vais retourner vers mon Seigneur et mon Dieu. Je vais lui dire, Seigneur, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il lui ouvre grand ses bras. Il accueille son enfant repentant. Il le reçoit. Il lui redonne sa place d'honneur, sa place de fils dans la maison de Dieu. Jésus est celui qui. Mais il n'y a pas de paix pour le pécheur. David également a péché, il n'a pas trouvé de paix. Parce que la conscience accuse le coupable. Les accusateurs sont là, et celui qui nous accuse. Mais notre conscience nous accuse. Il y a les hommes qui nous accusent. La femme adultère a été accusée par des hommes. Et vous pouvez avoir des personnes qui vous accusent. Mais culpabilité, ce qui est dans notre cœur. Et j'ai nommé ce passage de l'Écriture, je vais le rappeler brièvement. Le Seigneur rappelle, et c'est David qui le dira dans le psaume 32, dira « Tant que je me suis tu, mes os se lissaient toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Mais il dira « Mais j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de moi. » Le serpent est l'instrument de notre souffrance. Il engendre la mort. Il est la puissance de la mort. Et la puissance de la mort, c'est le péché. Et le Seigneur, ceux qui ont péché, ont été mordus par les serpents. Le venin mortel du péché engendre la mort. Ce n'est pas quelque chose de vain. Ce n'est pas de dire aujourd'hui, nous sommes tranquilles, parce qu'il n'y a pas de serpent. Du péché, l'ennemi de nos âmes qui vient nous mordre. Et c'est le venin mortel du péché qui produit la mort. Tous ceux qui ont péché meurent. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit le Seigneur. Donc ce venin mort, et ceux qui étaient mordus par les serpents, mouraient. Et tous les péchés, et tous ont péché, nous rappelle l'Écriture. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et si on ne fait pas la paix aujourd'hui avec le Seigneur, on meurt dans la morsure du serpent, amène Israël à sentir son péché. Et quelquefois, nous pouvons dire, mais moi, j'ai tous les malheurs qui m'accablent, qui s'abattent sur moi, mais peut-être le Seigneur veut-il attirer quelqu'un encore? Et c'est parce qu'il y avait ces malheurs, qui ont senti leur péché, qu'ils se sont tournés vers Dieu pour implorer sa grâce et son secours. Et ils vont dire, Seigneur, nous avons péché. Il y a celui qui pêche et qui passe par la repentance. Et qui n'a pas, il n'y a plus de pardon pour lui. De dire, mais pourquoi? Judas a péché. Il dira aux hommes, et non pas aux... Il dira aux hommes, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais il y a une différence entre celui qui se confesse à des hommes et celui qui se confesse à Dieu. Un jour, au pied du Seigneur Jésus, il dira, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ce matin, peut-être quelqu'un pourrait dire, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais le Fils de Dieu nous lave et nous purifie de tout péché. La mort est la manière dont le Seigneur, nous, notre Dieu, traite l'humanité déchue. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché. La condamnation, que le pécheur meure. Mais il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le dira dans Luc 13, verset 5, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » C'est ce que nous dit la manifestation de la grâce de Dieu. Dès que nous reconnaissons nos fautes, la grâce de Dieu se déploie pour répondre aux besoins du cœur de l'homme. Et le Seigneur veut répondre aux besoins de notre cœur. Souvenez-vous que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre et dans le ventre du poisson. Il faut quand même réaliser ce que représente cette épreuve. Il fait le contraire de ce que le Seigneur veut de lui. Mais le Seigneur veut de nous. J'ai lu les chants qu'il y avait là. J'ai dit, je pourrais prendre quelques notes de ce que nous avons chanté, des strophes, et je vous fais une prédication dessus. Ah ben, quand on dit, je veux le feu à l'intérieur, il faut l'avoir, le feu. J'aime à courir dans ta maison. Je ne sais pas si vous courez à la réunion de prière. Enfin bref, ce n'est pas mon sujet. C'est bien de chanter, mais c'est bien de le vivre. Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et dans le ventre d'un poisson, il a senti sa détresse. Il a vu qu'il allait mourir, qu'il allait périr. Mais dans sa détresse, dans la souffrance, Seigneur. Et dans sa prière, il va dire dans Jonas 2:10, le salut vient de l'Éternel. Israël n'est pas le seul peuple à devoir mourir à cause de ses péchés. C'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais comment sauver les hommes? Ça, c'est le salut que Dieu veut nous accorder. Le Seigneur a trouvé le moyen de sauver de la mort Israël, son peuple, dans le désert. Il montre qu'il a demandé à Moïse d'élever un serpent sur une perche et quiconque regardait le serpent était sauvé. Eh bien, le Seigneur nous rappelle, Dieu a tant aimé le monde et Jésus pour nous sauver de la mort. Et le Seigneur Jésus dira, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour le salut de l'humanité, qu'il y ait un sauveur. Un sauveur qui ne soit plus sur la terre. Non un sauveur qui soit monté au ciel, mais un sauveur qui soit élevé au ciel. Il n'est pas au ciel, il est élevé au-dessus de la terre. C'est-à-dire, il est sur cette croix, au-dessus de la terre. C'est-à-dire que Christ est crucifié, élevé sur la croix infâme du calvaire par le rejet des hommes pécheurs. Ce sauveur, c'est Jésus. Et nous avons tous parti que Jésus soit élevé sur la croix du calvaire. Tous. Et dans Actes 4, 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus qui sauve. Et le sang de Jésus est efficace pour nous laver, nous purifier de tout péché. Le Seigneur dit à un et place-le sur une perche et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Le serpent d'airain élevé sur une perche est l'image indiquant que Jésus, le Saint de Dieu, qui est sans péché, il n'est pas pécheur, mais il est fait péché. D'ailleurs, dans l'Écriture, dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus a été fait péché pour nous. Et pour nous sauver de la mort éternelle, Dieu a fait de Christ un sacrifice pour le péché. Et c'est ce que nous enseigne tout le livre du livre sur les sacrifices pour le péché qui sont des types du sacrifice du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous aimez le Lévitique. Si je reviens un jour, je vais vous le faire réciter. « L'autel représente la croix. L'agneau ou l'animal représente le Seigneur Jésus qui donne sa vie pour nous, qui est crucifié. Le sang, on sait, on comprend ce que c'est. Et puis la graisse dans le Lévitique, c'est le plus agréable à Dieu, qui est là pour être un parfum d'une agréable odeur au Seigneur. Alors on a des bases pour les sacrifices. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Et ce du Lévitique, et Dieu, dans son immense amour pour nous sauver de la mort éternelle, a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé. Il l'a fait devenir péché pour nous. Lui qui n'avait point connu le péché. Et quelle grâce, on peut dire, quelle pour la croix du calvaire, il a été fait tout ce que nous étions. Jésus a été fait tout ce que nous étions. C'est-à-dire, il a été fait péché. Et par sa grâce merveilleuse, il a fait tout ce que nous étions, c'est-à-dire péché, et il a été crucifié. Le Seigneur Jésus a été élevé sur la croix du calvaire comme le serpent sur une perche. Et ça, ça a une signification spirituelle. Si l'on fait mis un crime digne de mort et que l'on l'ait pendu à un bois, nous dit Deutéronome 21-22, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. On a deux hommes qui sont venus descendre. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Jésus a été fait malédiction pour nous. Il a été fait malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Quiconque est pendu au bois ». Et pour nous racheter de la malédiction dont j'étais l'objet, Jésus a été maudit. Donc, si on nous le rappelle dans sa parole, c'est chose impossible à la loi parce que la chair rendait sans la justice de Dieu. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché. Et Dieu a condamné dans une chair semblable à la nôtre avec toute sa faiblesse. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Donc Jésus a revêtu un corps de chair. Il a été fait péché pour nous. Ce corps de chair a été élevé au-dessus de la terre, vu de tous. Et cet homme a été livré, nous rappelle l'Écriture, selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu. Et dans Actes 2, 23, il dit « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Nous avons crucifié Jésus à cause de nos péchés. Et quand on réalise que Christ est mort à cause de nous, on ne peut que se repentir et dire « Seigneur, chacun de mes péchés, c'était de souffrance que je t'ai fait subir. » Le salut est en Jésus seul. Nous étions tous dans un état de mort spirituelle. Le Seigneur le dit « Vous étiez morts. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est merveilleux, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et ce n'est pas par nos mérites. Il y a des hommes, ils vont déployer tout ce qu'ils ont fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. J'ai même fait un chèque. Donnez tout ce que j'ai donné. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas par qu'on est sauvé, mais c'est par grâce. Parce que celui qui est pauvre ne pourrait pas être sauvé. Mais Jésus est venu sauver les petits et les grands, les pauvres et les riches. Et c'est par le fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et quel bonheur d'avoir un tel sauveur, un tel Dieu. Et par sa mort, Jésus ouvre le chemin de la vie éternelle. À tous ceux qui ont du péché. Et peut-être quelqu'un ce matin pourrait dire « Oui, moi je n'ai pas fait la paix avec Dieu, j'ai le péché en moi, et le péché règne encore dans mon cœur, et il y a ce venin mortel qui est là. » Et le Seigneur ouvre le chemin reçu de la vie éternelle. Mais il ouvre le chemin de la vie éternelle. Toi qui as encore ce venin du péché dans ton cœur, Et comment recevoir le salut pour vivre? Il fallait dans le désert. Mais on va dire aujourd'hui, on est au 21e siècle, il n'y a pas un serpent d'airain qui est dressé devant nous, et il n'y a plus un Moïse qui l'élève au-dessus de nous. Alors comment faire? Le Seigneur va dire, fais-toi un salut, est encore pour nous aujourd'hui. Et béni soit Dieu, c'est que le salut s'étend à tous les hommes. Et Jésus dira, et moi, quand j'aurai été élevé, moi qui ai fait péché pour toi, moi qui me charge de tes péchés, qui n'ai pas la condamnation de Dieu pour supporter le châtiment à ta place, moi qui ai fait péché, qui suis fait péché pour toi, moi qui suis maudit en étant élevé sur cette perche, sur la croix du calvaire, bien le Seigneur me dit, j'attirerai tous les hommes. J'attirerai tous les hommes à moi. Alors quand j'entends ça, je dis, Seigneur, c'est formidable, c'est que tu attires tous les hommes à toi. Mais tous ne résistent au Seigneur. Il y en a qui résistent au Seigneur. Le Seigneur les attire et tire à lui, mais ils résistent. Et on a résisté combien de temps nous-mêmes? Que devons-nous faire pour être? Devons-nous faire? C'est le cri de détresse de l'homme qui est condamné. La mort frappe, elle touche tous les hommes, elle atteint tous les pécheurs et tous les hommes sans exception. Le péché pèse sur la conscience, il y a la culpabilité qui ronge le cœur de l'homme coupable. Et dans le livre des Actes, nous entendons les hommes dire, mais que ferons-nous? On a crucifié le Seigneur. Et il me faut quelque chose pour enlever les effets mortels du venin. Et que ferons-nous? On ne peut rien faire. Mais le Seigneur peut tout faire. Il a le traitement pour notre âme. Il a le moyen de nous sauver. Comme je le disais il y a un instant, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Quiconque avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'airain et qu'on s'invite que regarde. De regarder à Jésus, c'est quelque chose d'important et d'indispensable. Et il y a un vieux chant des chœurs et cantiques qui dit « Regarde, âme angoissée ou mourant du calvaire, à Jésus, élevé sur la croix du calvaire. » Le Seigneur dira dans Ésaïe 45 « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est pour nous ça. Terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous faisons partie du monde. Nous faisons partie de ceux qui sont aux extrémités, pas sur la terre d'Israël. Mais le salut s'étend à tous les hommes, et béni soit Dieu. L'image même de ce qui a fait notre malheur et qui a produit la mort éternelle devient en Jésus le moyen par lequel on coule librement sur les pauvres pécheurs perdus, qui sont blessés, qui sont meurtris. Et ça, c'est le moyen que le Seigneur va utiliser. L'image de ce malheur, l'image du péché, le Seigneur va l'utiliser, péché pour moi. Et quelle image admirable de Jésus élevé sur la croix du calvaire. Jésus est descendu sur cette misérable terre pour mourir sur le bois maudit. Dire qu'il y a des personnes qui se mettent à genoux pour adorer devant un crucifix. La croix, un moyen, quelque chose de merveilleux, c'est un moyen de supplice, de souffrance. C'est le bois maudit du calvaire, celui vers qui on doit se tourner, adorer, célébrer. Le calvaire, c'est Jésus. Et par sa mort, le Seigneur nous invite, par sa mort expiatoire, Jésus était l'instrument de notre rétablissement pour rétablir la bénédiction, pardon de nos péchés. Il ouvre les sources de la vie éternelle. Jésus est le seul remède. Il est le seul remède pour notre salut. Jésus détourne de nous la colère de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère, la colère de Dieu. Mais par son sacrifice, Jésus détourne la colère de Dieu. Elle ne tombe pas sur nous, mais elle tombe sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu tombe sur la personne de Jésus. Jésus a été frappé à cause de nous. Jésus a été fait tout ce que nous étions, comme je le disais il y a un instant. Il a été fait péché, malédiction, tout ce que nous étions a été ôté de notre cœur. Tout ce que nous étions, Jésus l'a ôté de notre vie. Et il l'a pris sur lui. Il s'en est chargé. Et tout ce que n'étions pas, Jésus l'a établi pour nous, en nous. Nous n'étions pas les enfants de Dieu, nous n'étions pas saints, nous n'étions pas sans purifier de nos péchés, et Jésus l'a établi pour nous. Tout ce qu'on était de mauvais, Jésus l'a ôté, ça en est chargé, il l'a pris sur lui. Il a supporté la condamnation. Et tout ce que nous n'étions pas, blâble à lui, rempli d'amour, de bonté, de patience, avoir le fruit de l'Esprit, Jésus l'a établi en chacun de nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez que les saints ne sont pas seulement les 365 qui sont sur un calendrier. Il n'y aurait pas grand monde dans le ciel. Les saints, la paix avec Dieu, qui ont été lavés par le sang de Jésus, ils sont enfants de Dieu pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Quelle grâce! Et le Seigneur nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Mes frères et sœurs, comprenez ça. Un jour, quelqu'un nous disait à ma femme et à moi, elle voulait qu'on l'adopte. Alors, je suis pris entre quatre yeux un jour. C'est que tu deviens notre enfant et que nous diminuons l'héritage de nos enfants pour toi. Et oui, et nous, ces enfants d'adoption. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Il y en a qui se bagarrent sur la terre pour une petite part d'héritage, pour un petit lopin de terre, pour 3 sous. Et le Seigneur me dit, mais tu es co-héritier de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devenons les héritiers, les co-héritiers avec Christ du royaume. Une place nous est réservée dans le ciel. Un héritage nous est réservé dans le ciel. Jésus a fait de nous ce que nous n'étions pas hier. Il nous a prédestinés. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et du Saint-Esprit. Dieu, notre Père, est l'auteur de notre salut. Comprenons-nous l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous soyons sauvés, et c'est par amour que Christ meurt pour nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Quel bonheur! Alors le Seigneur nous invite, il nous dit dans l'Écriture, « Souviens-toi ». L'apôtre dira à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David ». Souviens-toi de Jésus-Christ. Moi, je voudrais vous dire, frères et sœurs, souvenez-vous de Jésus, du sacrifice de Jésus, souvenez-vous de la croix. Quand j'ai dit à Stéphane qui m'invitait, j'ai dit, écoute, mon sujet, ça va être la croix. Comme je le disais en démarrage, ce n'est pas l'objet par lui-même. La croix nous parle du salut. Mais souviens-toi de la croix. Dans l'Écriture, il nous est rappelé qu'il y a eu ce serpent d'airain qui a été élevé sur une croix, sur une perche, a été guéri, comme je viens de le dire. Et ce serpent d'airain n'a pas été détruit, il a été conservé. Tout comme la croix n'a pas été détruite, mais elle est conservée sur la terre. On voit une croix, on voit une représentation d'un homme qui est mis sur la croix, qui est conservé. Vous êtes d'accord? Et dans 2 Rois, chapitre 10, disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattu les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait. Ils ont gardé ce serpent d'airain qui est devenu pour eux un objet d'idolâtrie. Vous faites un rapprochement ? Ce n'est pas le crucifix, objet devant lequel des personnes prient, se courbent, s'agenouillent, les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. Rappelle à ton souvenir, nous rappelle le Seigneur tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour ton Dieu, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le Seigneur dira, je t'ai libéré de l'esclavage du péché. Le Seigneur Jésus est celui qui a brisé les chaînes de ton vice, de notre vice. C'est celui qui a brisé les chaînes des mauvais désirs qu'il pouvait y avoir dans notre cœur. Jésus est celui qui a pardonné tous nos péchés. Il est celui qui nous a lavés et purifiés par son sang précieux. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et Jésus a fait de nous une nouvelle créature. Et le Seigneur est celui qui nous a rendus heureux. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il dit, mais souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t'a soutenu, porté dans les jours les plus sombres. Vous vous souvenez ? Comment le Seigneur nous a secourus de tout le chemin que le Seigneur nous a fait faire ? Comment le Seigneur nous a entourés, comment il nous a portés dans les jours les plus sombres ? Si le Seigneur n'avait pas été avec nous, on aurait sombré depuis bien longtemps. Mais quelle grâce ! Le Seigneur nous a portés dans les moments les plus difficiles, dans la tempête, dans les épreuves. Souvenez-vous, dit l'Épître aux Hébreux, de ces premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous, au milieu des souffrances. Demandez à quelqu'un, celui qui n'a jamais souffert, qui lève la main. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souviens-toi combien Jésus t'a aimé. Souviens-toi. Et nous pouvons entendre la voix du Seigneur Jésus qui dira « Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? » Bien-aimé, celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Alors je voudrais poser la question. Quelqu'un a-t-il encore ce matin caché au fond de son cœur ? Il y a ceux que l'on a mis à la croix du calvaire, mais il y a des choses quelquefois qui sont cachées. On peut avoir un beau sourire et avoir au fond du cœur beaucoup de peine. On peut paraître être un bon chrétien, chanter, fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur, et puis avoir encore quelque chose au pied du Seigneur. As-tu encore un péché qui est caché au fond du cœur ? Jésus est celui qui pardonne. Mon frère, ma sœur, t'es-tu lassé du Seigneur ? Souviens-toi de ces premiers jours où tu venais dans la maison du Seigneur. Avec quel élan on venait dans la maison de Dieu ? Moi, je me souviens des premiers jours où je venais. Il faudrait qu'il y ait des réunions tous les jours. Et puis aujourd'hui, quand on dit « Oh, il y a une réunion exceptionnelle », souviens-toi, t'es-tu lassé du Seigneur ? Ton amour pour Jésus s'est-il refroidi ? On l'a chanté. On voulait que le feu soit dans le cœur. La tempête de l'épreuve a-t-elle éloigné du Seigneur Jésus ? Pour quelque raison que ce soit, tu t'es peut-être éloigné du Seigneur, tu es parti à la dérive, et puis tu traverses le désert sans pouvoir désaltérer ton âme, s'il manque quelque chose. Alors il y a un appel du Seigneur qui retentit. Jésus est là, élevé, sur la croix du calvaire, pour le pardon de tes péchés. Jésus sur la croix du calvaire, comme le serpent a été élevé, mais le serpent a été muet. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus élevé sur la croix du calvaire intercède pour des coupables. Il appelle encore ce matin. Il est celui qui attire tous les hommes à lui. Et je crois que le Seigneur veut encore attirer un de ses enfants. Éloigné du chemin, qui traîne la jambe pour venir, qui est peut-être à la traîne, et le Seigneur veut l'attirer à lui. Le Seigneur dit, je le tirerai à moi avec des liens d'humanité. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à tourner vos regards vers le crucifié, vers Jésus, crucifié pour vous et pour vous sauver. Le Seigneur dit dans sa parole, et vous serez vous sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ce n'est pas un juge qui appelle. Ce n'est pas la voix redoutable de la condamnation qui retentit dans notre cœur. Mais c'est d'entendre la parole à Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la voix d'un Père, de notre Père céleste, de ce Père céleste qui nous appelle par l'intermédiaire de Jésus. Il connaît votre stress, il connaît votre cœur qui saigne devant votre malheur. Mais Jésus est venu. Et le Seigneur nous invite à venir à Jésus. Il tend ses bras vers nous. Et il nous attend. Et il y a encore une place. Et une place au pied du Seigneur Jésus. Au pied de la croix. Il y a toujours une place pour un pécheur repentant. Alors on va courber nos fronts devant le Seigneur. On va se tourner vers lui, implorer sa grâce. Seigneur notre Père, nous te prions dans ta bonté. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, toi Seigneur, nous t'avons élevé sur la croix du calvaire. Seigneur, tu t'es chargé de nos transgressions. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur la personne de Jésus. Mais quelle grâce Seigneur, pour le jour où nous avons tourné nos regards vers toi. Lorsque nous sommes tombés à tes pieds, lorsque nous avons pleuré sur notre misère, en réalisant combien tu as souffert pour le salut de nos âmes. Seigneur, dans ta grâce, ton sang versé à la croix du calvaire est venu purifier nos âmes, pardonner pour nous laver, nous purifier et faire de nous les enfants du Dieu vivant et vrai. Seigneur, je te prie encore aujourd'hui dans ta grâce, s'il y a un seul pécheur qui a besoin de se repentir, qu'il trouve aujourd'hui le salut en Jésus-Christ, qu'il se sent coupable, condamnable devant toi, qu'il puisse implorer aujourd'hui le pardon de ses péchés et trouver la vie et la vie éternelle. Seigneur, tu es celui qui lave et qui purifie, qui pardonne nos péchés. Seigneur, tu ne viens pas pour nous rejeter, nous mépriser, mais tu es venu jusqu'à nous ce matin encore parce que tu nous aimes. Seigneur, viens et sauve dans ta grâce. Étends ta main, glorifie-toi, délivre et secours notre Père. Amen. On se permet d'être encore un instant devant le Seigneur dans le recueillement et peut-être quelqu'un se sentira peut-être encore pécheur, besoin d'une délivrance, besoin d'un secours, besoin de revenir au Seigneur. Peut-être, on est peut-être loin, on s'est éloigné du Seigneur comme le fils prodigue s'est éloigné. Notre cœur est peut-être chancelant. Nous pouvons entendre la voix du Seigneur nous dire, mais tu passes pour être vivant, mais en fin de compte, tu es mort. Tu es misérable, pauvre, aveugle, nu. Et ce matin, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, pour voir l'état de ton cœur. C'est Dieu qui appelle. Et si quelqu'un avait besoin de la grâce de Dieu, pendant que tout le monde a la tête à sa place, on va prier pour vous. Parce que je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour vous. Si vous avez besoin, ressentez vraiment le besoin. Oui, j'ai vu vos mains, vous pouvez les baisser. Oui, j'ai vu votre main, c'est le temps. S'il y a quelqu'un encore qui avait besoin de la grâce de Dieu, qui lève sa main et va prier le Seigneur. Oui, j'ai vu également votre main. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur Jésus, quel Dieu merveilleux tu es. Sur la croix du calvaire, tu as donné ta vie pour le salut de nos âmes. Seigneur, tu ne nous as pas rejetés, tu ne nous as pas méprisés, mais tu nous as vus tels que nous étions, perdus dans notre misère. Tu as vu la souillure dans nos âmes, mais tu as vu particulièrement le chemin que nous empruntions. C'était le chemin de la perdition. Nous étions morts dans nos péchés. Et Seigneur, encore aujourd'hui, ta voix retentit de la mort à la vie éternelle. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour ces amis qui s'approchent de toi aujourd'hui, qui lèvent leurs mains vers toi et qui disent, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens et ôte ce péché, ce qui me tient encore. Fais de moi cette nouvelle créature. Je veux naître de nouveau pour toi. Je veux qu'une vie nouvelle naisse en moi par l'action de ton esprit dans ma vie. Seigneur, pardonne encore, libère et secours ceux qui se sont tournés. Accorder ta grâce et ton pardon au nom de Jésus. Amen.
Quelques instants avant qu'on ne se